VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue à l'édition du lundi 30 mars 2015 en votre compagnie Idrissa Seydoudia et Morgane Guériec. À la une ce soir.
Résultat partiel de l'élection présidentielle au Nigeria. C'est le coude à coude entre le président sortant Goodluck Jonathan et son adversaire Muhammadu Buhari.
Burundi, un glissement de terrain à Rutunga fait au moins...
La rivière de Rutunga a complètement dévié de son lit et a pris sur tout son passage de grosses pierres, bousculé toutes les maisons qui étaient sur le passage.
Notre envoyé spécial au Niger nous emmène à Difa, dans l'extrême sud-est du pays, où Boko Haram perturbe les activités économiques.
Le poivron, le poisson, le niémé, tout cela sont des produits que vendent les Boko Haram. Et ce n'est pas eux qui ont cultivé, ce sont les paysans qui ont cultivé et ils ont pris avec force, avec armes.
La Guinée instaure une urgence sanitaire renforcée de 45 jours. Pour lutter contre Ebola dans 5 préfectures.
En Suisse, les négociateurs sur le nucléaire iranien mettent les bouchées doubles à 24 heures de la date butoir pour un accord cadre.
Au Yémen, une dizaine de personnes déplacées tuées dans un raid aérien au 5e jour de la campagne militaire arabe contre les rebelles chiites.
Une personne tuée et une autre blessée dans une fusillade devant le QG de la NSA, agence de la sécurité nationale près de Washington.
Dans moins de 10 minutes, la Minute Écho avec Jean-Roger Bion et les sports avec Nicolas Pinault. Mais d'abord, le journal.
Premier résultat partiel de l'élection présidentielle au Nigeria. Le président sortant Goodluck Jonathan et son adversaire Muhammadu Buhari sont donnés très proches dans 8 des 36 États que compte la fédération et dans la capitale Abuja. Selon les premiers résultats transmis en direct à la télévision depuis Abuja, cet après-midi, par les délégués de la Commission électorale nationale indépendante, M. Buhari est pour l'instant donné vainqueur dans 5 États et M. Jonathan remportant le scrutin dans les 3 autres États et dans la capitale fédérale. M. Jonathan bénéficie cependant d'une légère avance de moins de 20 000 voix en nombre de suffrages exprimés. Au Nigeria, le vainqueur doit obtenir, outre le plus grand nombre de suffrages exprimés, au moins 25% des voix dans les 2/3 des 36 États de la fédération, auxquels s'ajoute le territoire de la capitale fédérale Abuja. Cette règle a été instaurée afin de s'assurer que tous les présidents élus bénéficient d'un certain soutien au niveau national dans un pays aux nombreuses fractures ethniques et religieuses. On fait le point avec Jacques Aristide.
Un bras de fer qui tient le Nigeria et la planète en haleine, le président sortant Goodluck Jonathan et son rival de l'opposition Muhammadu Buhari se sont battus jusqu'au bout. Une présidentielle considérée comme étant la plus serrée depuis la fin des dictatures militaires en 1999. Dans un communiqué, l'Union africaine a appelé à recourir aux moyens légaux existants au cas où il y aurait contestation des résultats des scrutins législatifs et présidentiels qui ont, d'après elle, respecté les principes continentaux des élections démocratiques. Depuis l'Europe, le secrétaire d'État américain John Kerry et le secrétaire au Foreign Office britannique Philip Hammond ont estimé qu'il n'y a pas eu pour le moment de manipulation systématique du processus électoral au Nigeria, mais font état d'indications inquiétantes que le processus de rassemblement des votes pour être compté peut être sujet à des interférences politiques délibérées. Réplique très rapide d'Abuja, comme le rapporte l'AFP. Pour la Commission électorale indépendante du Nigeria, ce sont des craintes sans fondement et il n'y a aucune preuve d'interférence politique.
Burundi, un glissement de terrain à Rutunga fait au moins 10 disparus. Il a beaucoup plu dans cette zone située à une trentaine de kilomètres de Bujumbura, la capitale. Les pluies torrentielles et la boue ont tout emporté sur leur passage. Les équipes de la Croix-Rouge burundaise sont sur place. On écoute Anselme Katiyunguruza, le secrétaire général de la Croix-Rouge burundaise.
La rivière de Rutunga a complètement dévié de son lit et a pris sur tout son passage de grosses pierres. Et voilà, ces pierres ont bousculé toutes les maisons qui étaient sur le passage quand elles descendaient vers de là. Nous avons 10 personnes disparues parce que jusque-là, on n'a pas encore trouvé les corps. On a 3 écoles complètement détruites de 14 salles. Il y a une église également qui s'est complètement effondrée. Un centre de santé complètement détruit. Et la route qui mène de Rumonge vers Bujumbura est coupée sur une distance de 5 km.
Eh bien, c'était Anselme Katiyunguruza de la Croix-Rouge burundaise, joint par Nicolas Pinault.
En Guinée, l'opposition prévoit une journée ville morte jeudi à Conakry pour contester le calendrier des prochaines élections. D'après le député Aboubacar Sylla, porte-parole de l'opposition, cette journée ville morte sera le commencement d'un cycle de manifestations qui vont continuer et s'étendre à l'intérieur du pays jusqu'à ce que les revendications soient satisfaites. Rappelons que l'opposition a suspendu le 18 mars sa participation au Parlement et à la CENI pour marquer son désaccord avec le calendrier électoral.
La campagne de régularisation des migrants au Maroc est jugée encourageante par la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme. En revanche, les autorités doivent encore fournir des papiers à 9000 personnes supplémentaires, souligne la FIDH. Il faut dire que le Maroc, situé aux portes de l'Europe, doit répondre à un afflux important de migrants. Le royaume chérifien a bouclé fin 2014 une campagne de régularisation qui a permis de satisfaire près de 18 000 demandes sur un total de 27 300 dossiers déposés. Les bénéficiaires sont surtout originaires d'Afrique subsaharienne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les pourparlers sur le nucléaire iranien se poursuivent à Lausanne, en Suisse, à 24 heures de la date butoir pour la conclusion d'un accord cadre. Un diplomate occidental dit que 3 questions majeures restent en suspens. Michel Joseph.
Selon ce diplomate, l'Iran et les puissances mondiales du P5+1 ne se sont pas toujours entendus sur la durée d'un éventuel accord, le rythme de la levée des sanctions économiques contre Téhéran et comment les imposer de nouveau en cas de violation des termes de l'accord par l'Iran. Il y a urgence, a-t-il également souligné, ajoutant qu'il ne reste plus qu'à dire oui ou non à des heures maintenant de la date butoir. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, s'est entretenu aujourd'hui avec ses homologues américains, britanniques, chinois, français, russes et allemands. L'objectif est d'arriver dans les prochaines 24 heures à un accord cadre qui garantirait la nature pacifique du programme nucléaire iranien en échange de la levée de sanctions draconiennes. Une version finale d'un tel accord est attendue vers la fin de juin 2015.
La violence continue au Yémen où la coalition menée par l'Arabie Saoudite poursuit sa campagne aérienne contre les rebelles houthis en appui au président yéménite Abderrabou Mansour Hadi. Les précisions d'Eddie Isango.
Un des raids a fait au moins 45 morts et 65 blessés aujourd'hui dans un camp de déplacés à Adja, dans le nord-ouest du Yémen, selon l'Organisation internationale pour la migration. Des témoins ont indiqué que des ambulances ont eu des difficultés à accéder au camp à cause des bombardements sur la route. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a accusé les rebelles d'être responsables de l'attaque. Les rebelles ont continué pour leur part à bombarder la ville d'Aden, les centres économiques du Yémen, mais ont été repoussé par 2 raids aériens. Le président Hadi avait demandé l'aide de l'Arabie Saoudite suite à l'impasse des pourparlers de paix avec les rebelles. 5 jours de bombardements aériens ont contraint près de 750 familles des Sanaa à chercher refuge dans des camps des déplacés du nord du pays, selon Reuters.
Deux membres des gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime iranien, déployés en Irak comme conseillers auprès de l'armée, y ont été tués par un drone américain, rapporte aujourd'hui un média officiel. Mais le Pentagone a rejeté cette allégation. Selon l'agence officielle iranienne IRNA, qui fait état de leur inhumation en Iran, les deux hommes ont été tués le 23 mars par un drone américain lors d'une opération contre le groupe État islamique à Tikrit, dans le nord de l'Irak.
Un avion de Turkish Airlines se reliant Istanbul à Sao Paulo a été contraint à une escale d'urgence sur l'aéroport marocain de Casablanca à la suite d'une alerte à la bombe qui s'est avérée fausse, a-t-on appris auprès de la compagnie turque. Voilà maintenant la minute écho avec Félix Yepassis Zembrou.
La minute écho avec Félix Yepassis Zembrou.
Le géant pétrolier français Total a annoncé lundi la cession pour 569 millions de dollars des parts qu'il détenait dans un projet pétrolier en cours de développement au Nigeria. Selon un communiqué du groupe, le projet Onshore se situe dans la région du delta du Niger et a été concédé à la société nigériane Ethio Eastern ENP. Total poursuit son désengagement de projets à terre dans le pays après les ventes récentes de ses parts dans d'autres blocs pétroliers. Des opérations qui ont rapporté au groupe un total de 1 milliard de dollars. En pleine élection présidentielle et législative au Nigeria, l'agence de notation financière Fitch a placé aujourd'hui la dette du pays sous surveillance négative, comme Standard & Poor's début février, en raison de la chute des cours du pétrole et des risques sécuritaires liés aux insurgés islamistes de Boko Haram. La note souveraine du Nigeria, c'est-à-dire l'évaluation de sa capacité à rembourser sa dette, était déjà fixée à BB- par Fitch, une note basse dans l'échelle d'évaluation qui place la dette nigériane dans la catégorie des investissements spéculatifs. Le constructeur automobile suédois Volvo Car a annoncé ce lundi qu'il allait investir 500 millions de dollars pour bâtir sa première usine aux États-Unis, pays où sa part de marché est aujourd'hui marginale. L'usine américaine, dont l'emplacement reste à décider, sera la cinquième de l'entreprise qui s'est nettement redressée depuis 2 ans avec l'aide de son propriétaire chinois, le constructeur Geely. Les véhicules vendus aux États-Unis, où la marque suédoise est présente depuis 1955, sont actuellement tous importés.
La minute écho avec Félix Yepassis Zembrou. Merci.
Les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Mangan.
Match amicaux terminé pour le Cameroun.
Mené à la pause, le Cameroun s'est imposé en Thaïlande 3-2 grâce notamment à Mukanjo, buteur puis passeur. Les Lions indomptables bouclent leur tournée asiatique avec 2 victoires.
Le Gabon accroché en Turquie.
À Antalya, les Panthères gabonaises et la Biélorussie se sont quittés sur un score nul et vierge, 0-0, c'était en amical. Le Gabon qui avait battu la semaine dernière le Mali 4-3 lors d'un autre match amical. Et puis un autre résultat ce lundi soir, l'Algérie a battu Oman 4-1 en match amical disputé à Doha.
La Côte d'Ivoire, elle, a été accrochée sur son terrain.
Victorieux de l'Angola 2-0 la semaine dernière, les éléphants ont concédé le nul face à la Guinée équatoriale dimanche devant leur public à Félicia. Partant sec cette fois, les hommes d'Hervé Renard, disposés dans leur habituel 3-4-3, s'assuraient d'emblée la possession mais se faisaient surprendre en contre sur un long ballon de Randy Iban, semé Viera et venait battre de près Sayouba, resté sans réaction sur sa ligne. Gradel a réussi à égaliser 1-1, score final entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale.
La CAF et la Tunisie enterrent la hache de guerre.
La Fédération tunisienne de football a estimé que son conflit avec la Confédération africaine, après l'élimination controversée de la Tunisie lors de la CAN, était réglé et qu'elle participerait aux qualifications pour la CAN 2017. Les choses ne sont pas officialisées encore, mais suite à ma rencontre avec Issa Yatou, pour moi, le litige est définitivement réglé, a déclaré à l'AFP le vice-président de la Fédération tunisienne, Maher Snoussi, indiquant que le recours tunisien devant le tribunal arbitral du sport allait être retiré. Je vous rappelle que la CAF avait donné jusqu'au 31 mars à la Tunisie pour présenter des excuses après ses accusations de partialité lors de la CAN 2015, faute de quoi les Aigles de Carthage seraient exclus de la prochaine compétition continentale.
Et la NBA, championnat de basket nord-américain.
Oui, San Antonio finit la saison régulière pied au plancher. Comme l'ont constaté hier, les Grizzlies de Memphis dominaient 89-103. Victoire de Houston à Washington, 99-91. Les Nets de Brooklyn ont dominé les Lakers, 107-99. Les autres résultats de dimanche, la victoire de Cleveland, 87-99.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seloudia et Morgane Guériec en votre compagnie, place au dossier du jour.
La commission électorale a commencé à publier les résultats préliminaires de la présidentielle au Nigeria. La tension monte dans le pays, notamment dans l'état de Rivers, où la police a dispersé aujourd'hui quelques 2000 femmes de l'opposition qui manifestaient devant les bureaux de la commission électorale à Port Harcourt. Timothée Donormaille a joint à Abuja Christopher Fomounio, directeur régional pour l'Afrique au National Democratic Institute, le NDI.
Les choses évoluent dans le bon sens, dans ce sens que les populations ne sont plus obligées d'attendre longtemps parce que les résultats sortent à fur et à mesure que la compilation est terminée au niveau des différents États.
Mais justement, au niveau de cette compilation, les États-Unis et la Grande-Bretagne se disent inquiets qu'il y a des risques d'ingérence, d'interférence politique dans le processus. Est-ce que c'est des inquiétudes fondées?
Oui, je crois que ces inquiétudes traduisent aussi un état d'esprit des populations qui, par le passé, ont connu des élections assez perturbées. Au jour d'aujourd'hui, étant donné que le scrutin du 28 mars s'est très bien passé, s'est passé dans de très bonnes conditions, je crois que c'est le souhait et l'espoir de tout le monde que lors de la transmission des résultats, il n'y aura pas d'interférence et que les résultats qui seront proclamés par la commission électorale indépendante seront vraiment un reflet des voix et des votes portés par les populations le jour du scrutin. Donc, je crois que tout acte qui va dans le sens d'encourager la commission électorale indépendante à continuer à bien faire son travail serait la bienvenue.
La situation la plus préoccupante du moment est sans doute celle de l'état de Rivers où des centaines de femmes de l'opposition ont été dispersées aujourd'hui par la police devant la commission électorale. Est-ce qu'il faut se préoccuper de cette situation?
Oui, il faut reconnaître que l'état de Rivers a connu pas mal de violences pendant la période préélectorale. Donc déjà, avant le 28 mars, on avait des inquiétudes pour le déroulement du processus dans cet état de Rivers. Il faut aussi reconnaître que c'est un état où les deux candidats au présidentiel étaient vraiment côte à côte dans les sondages. C'est un état qui pèse aussi dans l'échiquier politique. Donc, il y a de quoi rester vigilant. Au moment où nous parlons, il y a l'un des partis politiques qui a déjà saisi la commission électorale indépendante pour demander l'annulation du scrutin dans cet état de Rivers. Donc, c'est un cas assez particulier qui mérite à être suivi de près dans les jours qui viennent.
Christopher Fomounio, directeur régional pour l'Afrique au National Democratic Institute, nous parlait d'Abuja.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum. Ce jeudi, plein feu sur les élections nigérianes du 28 mars, enjeux et acteurs clés. Le Nigeria choisira-t-il la continuité ou l'alternance? Qui de Jonathan ou de Buhari l'emportera? Boko Haram de Shekau jouera-t-il le trou de fête? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Eh bien, nous restons avec Jacques Aristide pour parler des nouvelles mesures drastiques en Guinée dans le cadre de la lutte continue contre le virus Ebola. Les autorités de Conakry viennent donc d'instaurer une urgence sanitaire renforcée de 45 jours dans 5 préfectures du sud-ouest et de l'ouest du pays en raison d'une recrudescence de cas dans ces zones. Alors, Jacques Aristide s'est entretenu à ce sujet avec le ministre guinéen de la Santé, le docteur Rémi Lama.
Au départ, l'épicentre de l'épidémie était axé essentiellement au niveau de la région forestière. Voilà, aujourd'hui, cette région forestière est complètement clean en termes de cas. Et l'épidémie s'est transportée au niveau de la zone côtière. Et comme jusqu'ici, nous constations le non-respect de certaines mesures édictées par nos services de santé et par la coordination. Donc, il a fallu que nous retrouvions, sur le plan public, prennent des mesures fortes afin que ces préfectures respectent ces mesures. En termes d'enterrement sécurisé, en termes de déplacement des contacts. Et également, n'oubliez pas qu'il y a aujourd'hui, je prends l'aspect transfrontalier, la Guinée qui fait frontière à la Sierra Leone, où des mesures drastiques ont été prises. Donc, ont entraîné le dépassement de certains contacts de la Sierra Leone vers la Guinée. Et vous vous souvenez, quand je parle de l'aspect transfrontalier, en Sierra Leone, vous pouvez voir une maison dont la porte s'ouvre du côté de la Sierra Leone et la fenêtre se trouve du côté guinéen. Donc, toutes ces mesures vont entraîner le respect, non seulement du contrôle de l'épidémie, en termes de déplacement des contacts, en termes d'enterrement non sécurisé.
Mais monsieur le ministre, cela veut-il dire que la Guinée peine encore à voir la fin de cette crise sanitaire?
Non, la Guinée ne peine pas. Je dis qu'on est confronté à certaines difficultés relatives au respect de certaines mesures édictées par nos services. Je dis au départ, l'épidémie était concentrée au niveau de la région forestière. Mais grâce à la sensibilisation, à l'implication de la communauté, aujourd'hui en région forestière, nous n'avons reçu plus de cas il y a plus d'un mois. Ça veut dire que c'est une question, je me dis peut-être, de déni de la maladie au niveau de la région côtière. Et c'est pourquoi M. le Président de la République, conscient de ce défi, a pris de nouvelles mesures afin de contraindre ces communautés à respecter ces mesures d'hygiène. Il est maintenant interdit de transfert de corps d'un endroit à un autre, j'allais dire, les contacts vont désormais rester sur place pendant les 21 jours. Et toute personne qui s'évertuerait à cacher un malade répondrait devant la loi, devant la justice. Donc ce sont des mesures renforcées afin que nous sortions rapidement de cette situation de crise sanitaire.
Quelle est la situation, très rapidement pour terminer, et êtes-vous confiant qu'on va pouvoir mettre fin à cette épidémie plus tôt que tard?
Oui, moi j'ai toujours dit, ce n'est pas un problème de chiffres qui m'intéresse, car on est parti d'un seul cas pour en arriver là. Le problème, c'est comment arriver à Ebola zéro. Ce n'est pas qu'on dise qu'on a deux patients dans les stades de traitement, il y a tel nombre de contacts. Non, on est parti d'un seul cas pour en arriver là. Donc aujourd'hui, l'objectif visé, c'est que nous arrivions à zéro Ebola. Et nous sommes dans cette dynamique.
Le ministre guinéen de la Santé, le docteur Rémi Lama, joint à Conakry.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sidiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Cap maintenant sur l'extrême sud-est du Niger avec notre série sur l'impact de Boko Haram sur la région de Diffa. Les attaques répétées du groupe djihadiste ont notamment perturbé le commerce, comme nous l'explique Ali Alousseini, secrétaire général du syndicat des commerçants de la région de Diffa. Notre envoyé spécial sur place Idriss Fall lui a tendu son micro.
Les commerçants sont les plus touchés. Avec Boko Haram, tout est bloqué au niveau donc de Diffa. Mais Dieu merci maintenant, à partir du 6, 7, 8, nous sommes un peu bloqués dans l'ensemble de la région de Diffa.
L'État a interdit le commerce du poivron et du poisson.
Oui, on soutient l'État. Le poivron, le poisson, le niémi, tout ça là, ce sont des produits que vendent les Boko Haram. Et ce n'est pas eux qui ont cultivé, ce sont les paysans qui ont cultivé et ils ont pris avec force, avec armes. Et aussi, ce qui est grave, ils mettent les armes dans ces sacs pour amener. Totalement au soutien de l'État.
Maintenant, comment font les agriculteurs, ceux qui produisaient le poivron et les pêcheurs qui attrapaient les poissons? Alors, ils vivent comment?
Bon, ça vraiment, tout est bloqué maintenant. Les pêcheurs, la majorité ont quitté le lac Tchad pour gagner leur localité. Les cultivateurs, eux aussi, ils ont quitté le lac. La majorité sont venus vers Ngimi. Mais nous, chez nous, ça nous arrange. Parce qu'avec tout ça, là, ça donne des problèmes à la population. S'il n'y a pas le poisson, s'il n'y a pas le niébé, nous, on gagne partout. Hein. C'est bon d'interdire. Si ça donne vraiment une maladie à la population, il est bon d'interdire. C'est bon. Parce que nous, ça nous arrange. Ça nous arrange beaucoup, nous.
Une bonne partie de votre commerce vient ou bien va vers le Nigeria avec la guerre. Comment ça se donne? Est-ce que vous avez des facilités?
Non. Vous savez, Diffa, c'est une localité qui est limitée donc, à l'est par le Tchad et au sud par le Nigeria. Avant, dans les années passées, toute activité du commerce, ça s'est fait, nous on fait ça au Nigeria. Mais comme le Nigeria est un pays qui est vraiment dans des problèmes, nous, le commerce, nous avons stoppé. Parce qu'il y avait des problèmes. Et même avant que Boko Haram arrive, les problèmes, toujours, il y a entre le Nigeria et le Niger, là, on a des problèmes de barrières, surtout. Il y a tellement de barrières. Et les autorités nigériennes, voilà, chaque fois, ça menace le commerçant. D'abord, dans leur ville, tu ne te promènes pas beaucoup. On te dit que tu es Nigérien, tu es étranger, on te prend, il faut de l'argent pour te ramasser dans leurs mains. Maintenant, tout ce que l'État fait là, c'est très juste et nous sommes d'accord avec ça.
Voilà, c'était Ali Al-Husseini, secrétaire général du syndicat des commerçants de la région de Diffa.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
On vous le disait en début de journal, le Yémen s'enlise dans le chaos. Les premières victimes du conflit qui oppose les Houthis et la coalition saoudienne se comptent déjà par dizaines. D'un côté, Riyad et ses alliés, de l'autre, les rebelles Houthis, Téhéran et le Hezbollah. Le conflit risque de prendre une ampleur régionale. Salwa Javari nous en dit plus.
Des boules de feu illuminent le ciel de Sanaa, des prières émanant de presque tous les minarets de la ville. C'était une nuit sans sommeil dans la capitale. Ici, la coalition de Riyad n'y est pas allée de main morte. Dans le nord non plus. L'opération Tempête décisive compte déjà des dizaines de victimes. Riyad s'obstine, s'adressant à la télévision américaine, son ambassadeur à Washington, Adel Jubeir, promet d'y aller jusqu'au bout.
Nous avons une coalition de 10 pays qui participent aux opérations. Nous sommes déterminés à continuer les opérations jusqu'à atteindre notre objectif.
L'objectif étant la reddition des Houthis, contraindre les rebelles chiites soutenus par l'Iran à déposer les armes. Pour ce faire, Riyad a mis en route un projet maintes fois remis dans les cartons. Le projet de force militaire conjointe pourrait enfin voir le jour. Sur les bords de la mer Rouge, à Sharm el-Sheikh, les 21 dirigeants de la Ligue arabe se sont mis d'accord hier sur sa création. On parlerait alors de forces militaires telles que l'Égypte, le Soudan, la Jordanie, le Maroc, rangées derrière la bannière des Al-Saoud, contre les rebelles Houthis et par association contre Téhéran. Téhéran, qui ton père, son ministre des Affaires étrangères, Javad Zavid, a déclaré de Genève qu'il était nécessaire de mettre fin aux opérations militaires et de reprendre le dialogue. La voie de la raison, peut-être pas. Selon un responsable saoudien, il y aurait 5000 Iraniens, membres du Hezbollah et miliciens irakiens sur le terrain. Entre-temps, la population civile est prise en étau. Les habitants commencent à fuir la capitale. Des centaines de ressortissants étrangers ont été évacués, alors que le pays s'enfonce dans une guerre qui prend des dimensions régionales.
Salut les amis, ici Roger Muntou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, Top 10 American Music. Les 10 morceaux qui cartonnent en ce moment ici aux États-Unis et pourquoi pas dans le monde. Les amis, ne ratez pas. Nous allons aussi conclure avec notre sujet de la semaine dernière, la liberté d'expression. Envoyez-nous vos réactions par SMS au 225-58-92-85-40. C'est les 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-31-40. C'est les 001-202-619-31-40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Premier résultat partiel de l'élection présidentielle au Nigeria. Le président sortant Goodluck Jonathan et son adversaire Muhammadu Buhari sont au coude à coude. On a donc Monsieur Buhari qui est donné vainqueur dans 5 États et Monsieur Jonathan qui remporte le scrutin dans 3 autres États et la capitale fédérale.
Et au Burundi, un glissement de terrain à Rutunga fait au moins 10 disparus. Il a beaucoup plu dans cette zone située à une trentaine de kilomètres de Bujumbura, la capitale.
En Guinée, l'opposition prévoit une journée ville morte jeudi à Conakry.
Voilà, c'est tout. À la mise en onde ce soir, Lionel Gaïma. Présentation, Idrissa Seludia et Morgane Guériac.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry,
92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.